France Info.
Bonjour Amélie Oudéa-Castéra.
Bonjour.
On va se parler des Jeux Olympiques, ouverture dans 100 jours. Mais d'abord, un mot de ce match hier soir, le PSG qui arrache une très belle victoire face au Barça, qui se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Même quand c'est mal parti, parfois ça passe pour les Français.
Oui, absolument. S'accrocher jusqu'au bout. Dans ce match retour qui était compliqué forcément, mais ils s'en sont super bien sortis, ce 4-1. Gros match de Dembélé qui a été en plus... confronté un peu à des sifflets tout au long du match. Donc, je trouve qu'il a fait preuve, on va dire, d'une vigueur particulière. Et puis, Kylian au rendez-vous.
Mbappé,
là qu'on voit aussi les grands champions. Il a été critiqué à l'aller. Là, il sort le grand jeu. Il est là. Et puis, c'est toute une équipe. Moi, je suis très, très heureuse pour eux. Maintenant, voilà, cap sur la suite. Il y a en plus, voilà, dans la perspective de jouer le Borussia Dortmund, une opportunité. Il faut qu'ils soient bien concentrés. On sera avec eux le 30 avril, le 7 mai au retour. Et... on a envie d'y croire, un peu plus de 30 ans après, on a envie de se dire que
30 ans après, c'est-à-dire 30 ans après l'Olympique de Marseille,
oui,
qui pour le moment est
premiers.
Toujours le premier club.
Et voilà, c'est
juste un mot de Mbappé qui a fait un doublé hier soir, ce serait une grosse perte s'il quittait Paris.
Ah, écoutez, je pense que il a donné déjà énormément, il a inspiré, je pense, ce championnat, il nous a fait tous vibrer. Évidemment, on est toujours frustrés, on a envie de le voir plus, d'avoir plus d'exposition à son jeu, etc. Mais voilà, il faut qu'il continue à construire sa carrière, ses choix. Et puis moi, ce que je retiens, c'est qu'il reste notre capitaine en équipe de France. J'ai très envie qu'il joue au JO.
J'aime beaucoup l'optimisme de Jean-Rémy qui met une hypothèse au fait que Kylian Mbappé parte.
Puis,
alors que c'est sûr qu'il partira.
Ça semble compromis. Mais...
ils ont mis le feu, les Parisiens, on l'a dit. Vous avez rallumé la flamme à Olympie hier avec notamment Tomny Estanguet. Cette flamme, c'est le début en fait des Jeux. C'est comme le coup d'envoi. Est-ce qu'on a enfin besoin de ça sur notre territoire pour emballer un peu le public français, parce que pour le moment c'est un peu mou.
Je pense que dans toutes les éditions, et ça tous ceux qui ont vécu ces aventures olympiques vous le disent, ça se matérialise en effet quand la flamme arrive sur le sol de manière
ce sera donc voilà, le 8 mai vraiment éclatante. À Marseille, on le rappelle.
Donc ça c'est une certitude, mais c'est vrai que l'étape qu'on a franchie hier avec l'allumage de la flamme à Olympie, là où tout a commencé, il y a 2800 ans, c'est chargé d'histoire, c'est-à-dire une belle cérémonie. Il y avait à la fois de l'élégance, de la sobriété. Et puis, c'était chouette aussi de voir Laure Manaudou, notre première relayeuse, qui a récupéré comme ça la flamme de notre sportif grec, champion d'aviron. Ce torch kiss, comme l'appellent les Anglais, là, cette première rencontre entre les deux flammes, ce passage et puis la perspective. Voilà, maintenant, la flamme va circuler pendant une dizaine de jours, pendant 10 jours, à travers la Grèce. Ces liens entre la France, la Grèce, puisque nous, on a cette histoire très particulière avec les Jeux. On les a réinventés dans cette ère moderne. Et puis, le 26, moi, j'y serai à Athènes, au Pirée. La flamme qui va monter à bord de ce magnifique trois-mâts qui est le Belém, qui va suivre ce périple dans la Méditerranée. Et puis, une arrivée qui s'annonce assez grandiose à Marseille le 8 mai. Il y aura à peu près 150 000 personnes. Les équipes localement sont extrêmement dans les préparatifs. Ça va être magnifique, une grande parade nautique, un concert, beaucoup de fêtes. Et derrière, ça marque le coup d'envoi, en effet, de cette traversée dans plus de 450 villes de France.
Avec 68 étapes, le parcours de la flamme dans des lieux emblématiques en métropole et en Outre-mer, ce sont des lieux qu'il va falloir sécuriser. Est-ce que vous avez des craintes d'actions, d'activistes, par exemple, sur le parcours de la flamme?
Tout a été, je pense, extrêmement bien anticipé. Sous la houlette de Gérald Darmanin, il y a vraiment un dispositif de sécurisation de ce relais qui est très poussé. Je pense même d'ailleurs inédit, on peut le dire. Donc, une anticipation des différents types de menaces, leur analyse, mais surtout derrière la définition de tout un dispositif de sécurité avec une bulle de sécurité autour du ou des porteurs de la flamme, parce qu'il y aura aussi des relais collectifs.
En fait, très concrètement, des policiers qui vont courir.
18 policiers, gendarmes qui seront en civil pour entourer le ou la porteur de flamme. Et puis autour, un convoi d'à peu près 115 forces de sécurité intérieure, puis des unités de forces mobiles à l'avant, à l'arrière. Il y aura même des équipes du GIGN qui seront positionnées si besoin en était, et un concours des services de police départementaux, de la police municipale, une anticipation d'itinéraire bis si jamais il devait y avoir des difficultés. Donc je pense qu'on est vraiment prêts.
Donc les images comme on avait vu, on se souvient à Paris en 2008, la flamme pour Pékin à l'époque, qui avait été perturbée par des manifestants pro-tibétains. Ça, on ne devrait pas le revoir?
On sait toujours qu'il peut y avoir ce risque-là. Et nous, notre travail a été de l'anticiper au maximum. Un énorme travail a été fait, encore une fois, par toutes les équipes du ministère de l'Intérieur et les préfets localement, en lien avec les élus locaux. Moi, je veux rendre hommage vraiment à tous ces élus à travers les plus de 65 départements ou territoires qui sont mobilisés pour ce relais et qui se réjouissent vraiment de la perspective de voir ce parcours de la flamme. Donc, on a anticipé les choses, on sera très réactifs. Le risque zéro n'existe pas, mais on a tout fait pour qu'il y ait à la fois la sécurisation de ce relais et la capacité à le vivre. La France est magnifique, on va voir des paysages absolument incroyables.
Mais c'est un peu comme un traversée, tour de France en fait. C'est
des endroits
comme
incroyables de notre patrimoine culturel, mais, naturel, historique. Madame la Ministre,
juste quand même, sur la sécurisation, on sait aujourd'hui que 97% des contrats avec les sociétés privées ont été signés absolument. Par les organisateurs. Sauf que, une fois qu'on a signé un contrat, ça ne veut pas dire qu'on a les bras qui sont formés. Là, il y a en gros 10 000 agents qui ont été formés. Il en faut 22 000. Comment on fait là, est-ce qu'on sera dans les temps jusque... Parce que ça va commencer, y compris sur certains moments du relais de la flamme.
Là-dessus, on a mené vraiment en équipe un énorme travail. Il y a déjà 18 000 entrées en formation, 10 000 recrutements qui ont été sécurisés. On a rehaussé nos objectifs de manière aussi à, on va dire, pallier le risque qu'on appelle de no-show, qui n'est pas de présentation le jour J. Mais on est complètement en ligne avec notre plan de charge. On travaille beaucoup avec les équipes de France Travail pour justement sécuriser que tous ceux qui arrivent sur cette filière puissent être bien alloués en priorité aux entreprises qui sont attributaires des marchés du comité d'organisation. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Maintenant, chaque semaine compte. Et moi, je lance un appel à tous ceux qui ont envie de rejoindre ces filières. On travaille aussi envers la population, avec la population étudiante. On travaille avec des bénévoles.
Il y a encore
on
des places à prendre, il y a encore des emplois à pourvoir.
On travaille avec des jeunes en service civique. On travaille avec les jeunes qui sont aussi dans les filières de la sécurité privée, en BTS, en CAP. Donc on fait en sorte qu'il y ait vraiment tous ces viviers qui viennent pour qu'on soit parfaitement au rendez-vous des volumes, des effectifs. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude. On connaît nos besoins. On aura en moyenne besoin d'à peu près 18 000 agents de sécurité privée quotidiens, des pics à 22 000. On sera au rendez-vous.
Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports des Jeux Olympiques et Paralympiques. On se retrouve dans un instant. Il est 8h40, le Fil Info. Pour l'heure, c'est Mathilde Romagnan.
Présentation ce matin du programme de stabilité en Conseil des ministres. Le gouvernement doit trouver 10 milliards d'euros d'économies cette année face à un déficit public de 5,1%. L'exécutif qui promet que cela n'entraînera aucune hausse d'impôts. Grâce aux pluies du mois de mars, la situation des nappes phréatiques est globalement satisfaisante en France, selon le Bureau de recherche géologique et minière. L'an dernier, à la même période, 75% des niveaux étaient sous les normales. Seules les nappes du Roussillon sont à des niveaux très bas. La préfecture des Pyrénées-Orientales qui alerte d'ailleurs sur un fort risque d'incendie jusqu'à demain soir en raison d'une tramontane pouvant atteindre les 100 km à l'heure par endroit. Le PSG affrontera le Borussia Dortmund en demi-finale de la Ligue des Champions de football. Les Parisiens se sont qualifiés hier, déjouant tous les pronostics en battant le FC Barcelone en quart de finale retour 4 buts à 1.
France Info.
Le 8-30 France Info, Nathalie Yanetta, Jean-Rémy Baudeau.
Et à J-100, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, on va en venir à cette fameuse cérémonie du 26 juillet qui doit avoir lieu sur la Seine, sur 6 kilomètres. On savait déjà qu'il y avait un plan que vous avez qualifié de bis et le président de B. Mais alors, depuis lundi, le président de la République a parlé d'un plan C, repli au Stade de France. Qu'a-t-il pris au président de la République d'évoquer un scénario dont on sait que ce serait un scénario ultime, c'est-à-dire qu'il y aurait quasiment menace sur les Jeux si on en arrivait là, Madame la Ministre?
Non, le président de la République, il a été concret et il a retraduit cet esprit de responsabilité qu'il nous demande d'avoir en prévision de cet immense moment que sera l'ouverture de nos Jeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a d'abord dit qu'on ne devait pas laisser un contexte complexe, une menace protéiforme, terroriste, nous priver de nos rêves, de notre envie de construire une grande cérémonie qui inspire le monde entier, qui rend notre pays fier. Donc, notre plan
on
central
fait pas preuve de naïveté,
reste
mais on est prêt
la scène
à se replier,
et nous travaillons
dit-il.
Là-dessus, sur ce scénario, qui est notre plan, qui est notre scénario central. Maintenant, il faut être lucide, il faut être sans naïveté. On est dans un monde qui est complexe, qui est parfois dangereux. Ce qu'attendent les Français de nous, c'est d'anticiper, d'être prévoyant, d'être responsable. Moi, j'avais évoqué des plans bis au sens où dans le plan central, nous avons certaines variables d'ajustement. On en a activé une récemment, qui était ce système d'invitation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des billets offert à des publics désignés par des tiers de confiance. Après, il y a autre chose. Il y a une gradation dans la menace. Si la menace venait à s'intensifier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas de menace spécifiquement tournée vers les Jeux, pas de menace non plus terroriste anticipée sur notre sol, à ce moment-là, on doit concevoir des scénarios de repli. Il en a cité un, au Trocadéro, qui permet d'avoir une dimension artistique préservée. Et après, encore une fois, il y a une gradation dans la menace.
Mais le Stade de France, c'est comme si personne n'était vraiment au courant.
Si à J-3, il devait y avoir une catastrophe absolue, il faut imaginer qu'il y ait une cérémonie, on va dire, plutôt d'ordre strictement protocolaire.
Oui, c'est ça. Il faut expliquer aux auditeurs, madame la ministre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fête.
Et le Stade de France peut en faire partie.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de fête.
Tout ça est extrêmement cohérent.
Il y a juste le discours du président du CIO, le discours du président de la République et le serment des athlètes.
Mais
point
ça,
final.
C'est vraiment le scénario où, encore une fois, deux jours, trois jours avant la cérémonie, une menace exponentielle venait à s'exprimer. C'est tout à fait dans l'ordre des choses de travailler sur ces solutions-là. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, bien au contraire. Moi, il y a quelque chose qui, finalement, dans cet épisode, me fait plaisir. C'est que pendant des semaines, tous, on était rivés sur le plan A et on nous disait « mais vous êtes irresponsables de ne pas avoir un plan B, un plan C, etc. » Le chef de l'État expose ce que nous avons, tout en gardant la discrétion nécessaire, parce que il faut que sur ce genre de plan, il y ait cette confidentialité qui demeure, les hypothèses, les dates auxquelles on les active, etc. Mais là, jamais personne n'a autant réclamé qu'il y ait vraiment, en fait, la réaffirmation du plan.
Je prends ça comme une très bonne nouvelle. C'est qu'au moment,
c'est très français,
à la minute où le président de la République évoque ce plan C au Stade de France, le Paris 2024, l'organisation commence à passer des coups de fil en disant « ça n'est pas sur la table ». Donc il y a eu un petit coup de pression.
On a passé 48 heures ensemble, on est parfaitement alignés sur tout ça. Un plan central, en responsabilité, la conception de plans de repli alternatif avec des gradations et donc différents lieux correspondant à ces gradations de la menace et aux dates auxquelles ces menaces verraient le jour. Encore une fois, ça n'est pas le scénario aujourd'hui central dans lequel on se passe. Pour l'instant, on est rivé sur cette cérémonie sur la Seine qui promet d'être grandiose. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent. Ça va être un spectacle magnifique.
Amélie Oudéa-Castéra, le comité d'organisation des JO avait promis des Jeux à Paris à contribution neutre pour le climat. Je cite, si les Jeux de Paris sont deux fois moins émetteurs de carbone que Londres ou Rio, il y a une étude de l'ONG Carbon Market Watch qui dit que c'est insuffisant. Est-ce qu'on aurait pu faire plus pour avoir des Jeux plus vertueux ?
Là encore, arrêtons de voir le verre à moitié vide.
En l'occurrence, elle dit, c'est très bien sur les infrastructures,
écoutez,
quasiment tout était là.
On s'est engagé à diviser par deux l'empreinte. Personne ne l'a jamais fait. Ça va être les Jeux les plus écologiques de l'histoire. C'est des progrès considérables. D'abord, la sobriété qui est au cœur du concept des Jeux, puisqu'on a 95% des infrastructures qui sont éphémères ou déjà existantes, ce qui éloigne de très loin tout le spectre des éléphants blancs et des constructions qui seraient
extrêmement par l'ONG, d'ailleurs,
consommatrices en carbone. Ensuite, il y a toute une série de choses qui ont été faites. Je pense notamment au fait que tous les sites soient raccordés au transport en commun, 100% d'entre eux. Je pense au fait que tous les sites soient raccordés au réseau d'électricité en énergie renouvelable, 100%. Je pense aussi au fait que là où on a dû construire des ouvrages, la facture carbone, l'empreinte carbone a été divisée massivement. Je pense notamment au village des athlètes. Ça a été la construction en Europe le plus grand chantier monocyte d'Europe. 45% de l'empreinte carbone habituelle pour ce type de chantier. C'est extraordinaire.
La question qui est posée en réalité...
dans l'alimentation. On a baissé, on divise par deux l'empreinte carbone.
La question qui est posée
de
derrière, elle est plus large en fait. La question, c'est un peu la question qui fâche. C'est à l'heure du réchauffement climatique, est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir des grands rassemblements qui font venir, on va le dire, quasiment à 100% des gens en avion? 15 millions de spectateurs,
mais
des milliers de touristes.
C'est l'occasion aussi de faire de la pédagogie. Ça va être les premiers Jeux alignés sur l'accord de Paris. C'est des Jeux où on va éliminer de moitié le plastique à usage unique. C'est des Jeux où, avec plus de végétal, avec un sourcing à 80%
mais
des produits
des...
français dans l'assiette de nos athlètes, avec 25% sourcés à moins de 250 km, sur tous ces éléments, on est extrêmement précis et engagé pour justement démontrer qu'on peut œuvrer à cette transformation écologique sans renoncer au plaisir de vivre, sans renoncer à la qualité de l'expérience et sans renoncer au plaisir du partage.
Alors, ceux qui polluent le plus, on l'a dit, ce sont les transports et donc les voyageurs, les touristes et tous ceux qui seront sur notre territoire pendant toute cette période.
Transports internationaux.
Oui,
c'est
transports
internationaux.
C'est à peu près
un peu plus de 35% de la facture carbone de ces jeux.
Puisqu'on en est au transport, on a entendu tout à l'heure Jean Castex, désormais patron de la RATP, dire qu'il surveille, comme le lait sur le feu, le petit grain de sel des dernières livraisons pour notamment la ligne 14. Ça, c'est une grosse inquiétude pour les Franciliens. En dehors des Jeux Olympiques, ils souffrent beaucoup d'un réseau qu'ils considèrent être défaillant et complexe pour la vie quotidienne. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Vous êtes comme Anne Hidalgo, vous leur dites ne partez pas, restez, et tant pis s'il faut marcher un peu, comme dit pour le coup Valérie Pécresse.
Je leur dis d'abord, on est au rendez-vous sur les infrastructures, sur les plans de transport, et je leur dis, anticipons. Organisons-nous et adaptons-nous. On a pour ça, avec le ministère des Transports, déployé un site qui s'appelle anticiperlesjeux.gouv.fr. Moi, j'incite chacun à aller le consulter et qui permet de retrouver la météo des gares et des lignes chaque jour des Jeux Olympiques, chaque jour des Jeux Paralympiques pour voir, quand on a besoin d'utiliser les transports, qu'est-ce qui va être encombré, à quelle heure, pour éventuellement modifier un petit peu son itinéraire, ajuster son horaire de départ ou d'arrivée, peut-être une matinée se mettre en télétravail en accord avec son employeur, et avoir ses facultés d'anticipation. Cette solution-là, elle avait fonctionné à Londres. Elle avait permis de baisser le trafic routier de 30% et le trafic dans les transports en commun de 15%. Et Londres avait été au rendez-vous de la fluidité. Nous, on a étoffé les infrastructures. Vous avez évoqué la ligne 14, le travail remarquable qui est fait sous la houlette de Jean Castex, de Jean-Pierre Farandou, la RATP, la SNCF. Tous les acteurs seront prêts. On n'a pas de retard dans la livraison de nos infrastructures clés. Et après, on a la capacité, en effet, à avoir un petit peu de diversification modale avec, oui, du vélo, la possibilité de marcher si besoin. Ce sera un été de sport. Ça fait partie de la palette des solutions qui peuvent être activées.
Donc il faudra avoir quand même de bonnes chaussures. Amélie Oudéa Castéra, on se retrouve dans un instant, juste après le fil info, il est 8h50, le fil info de Mathilde Romagnan.
Les forces de l'ordre sont mobilisées ce matin à Vitry-sur-Seine, dans le sud de Paris, pour évacuer le plus grand squat de France. Il a abrité jusqu'à 450 personnes, il en restait 300 ce matin. L'opération était attendue depuis plusieurs jours. De nombreux sans-abri ont donc quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Le programme de stabilité est présenté ce matin en Conseil des ministres. Il détaille la trajectoire des finances de la France jusqu'en 2027, et le gouvernement cherche à faire 10 milliards d'euros d'économies cette année face à un déficit public de 5,1%. L'association Halte à l'obsolescence programmée alerte ce matin sur le développement de voitures électriques jetables et lance une pétition en ligne. Elle appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures pour garantir la durabilité de ces véhicules et qu'ils puissent être réparables. Les Jeux Olympiques, c'est dans très exactement 100 jours et à cette occasion, 250 000 nouveaux billets sont mis en vente à partir d'aujourd'hui et pour tous les sports, même pour ceux qui étaient annoncés comme complets.
France Info.
Le 8-30 France Info, Nathalie Yanetta, Jean-Rémy Baudeau.
Et la billetterie, Madame la Ministre Amélie Oudéa Castéra, c'est effectivement une réouverture aujourd'hui pour une remise en ligne de 250 000 billets. Vous entendez toujours cette éternelle critique de c'est trop cher, c'est pas des jeux populaires, etc. Alors je vais vous laisser répondre sur le côté populaire, mais objectivement l'inquiétude, elle se situe plutôt sur la billetterie paralympique. Est-ce qu'on risque d'avoir des stades vides fin août à Paris?
Non. Alors d'abord sur la billetterie olympique, il y a cette belle relâche ce matin de 250 000
une relâche.
Nouveaux
C'est-à-dire
billets.
Vous aviez fait de la rétention,
ouais.
Vous les rendez.
Non mais voilà, il faut phaser les choses, c'est bien, ça fait partie des étapes. On a 50% des billets qui vont être mis en ligne à partir de 10h ce matin à 100 euros ou moins. Et on a même 20 000 billets à 24 euros. Il faut profiter de tout ça parce que c'est la dernière fois qu'on a tous les sports qui vont être couverts. On aura les 31 sports qui vont être proposés.
Y compris
proposés.
Les finales de voilà. Natation et, première et, semaine et d'athlée deuxième semaine.
Et de nos plus grands champions, des matchs extraordinaires. On va avoir, y compris en basket, en foot, des choses absolument géniales avec des matchs de poule qui sont extrêmement prometteurs. Et en même temps, en effet un accès à différentes phases finales. Nos plus grands champions.
Mais ça, c'est pour les Jeux Olympiques. Il n'y a pas beaucoup d'inquiétude en réalité sur l'affluence des Jeux Olympiques.
Léon Marchand, Teddy Riner,
oui, mais ça, j'aurais mis raison, c'est un moment,
c'est un moment important. Ensuite, il y a le sujet de la billetterie. Je veux quand même répondre sur l'accessibilité, parce que je veux rappeler que les collectivités et l'État, au global, financent 1 million de billets gratuit offert à des publics prioritaires.
Donc ce sera
pour
quand
l'État,
même du
c'est
public
400
populaire.
000 personnes que nous embarquons dans les Jeux. La jeunesse, des personnes en situation de handicap, les bénévoles du mouvement sportif, des agents de catégorie B, C qui depuis des années travaillent comme des dingues pour faire réussir les Jeux. C'est quand même important de le rappeler. Et ensuite, la billetterie paralympique.
Alors, parlez-nous.
Alors, on a déjà 900 000 billets qui ont été vendus. Donc, c'est un bon résultat. On est déjà à plus de 30%. On a libéré certaines possibilités techniques, notamment avec des billetteries de groupes qui peuvent être proposées aux comités d'entreprise, qui peuvent être proposées aux associations sportives, qui peuvent être proposées aussi aux universités. On est en train d'aller dans les grandes écoles, dans les facs, pour proposer ces billets-là. Et il y a toute une campagne que nous prévoyons qui sera enclenchée le 20 mai au soir pour le J-100 des Jeux paralympiques, qui se poursuivra à partir du 21 mai. Et puis après, on a besoin de vous. Je suis contente que vous me posiez cette question. On a besoin des médias.
Du regard des Français aujourd'hui. Encore
des
sur
athlètes
le handisport.
Eux-mêmes, c'est assez formidable de voir qu'à chaque fois qu'un athlète paralympique parle des Jeux paralympiques, il y a des pics de vente. Parce que on ne se projette pas encore assez dans cette compétition, mais ça va être exceptionnel. C'est spectaculaire, c'est des parcours de vie, des athlètes extraordinaires. Donc moi, je n'ai aucune inquiétude et on sera tous au rendez-vous pour
donc
faire en
faire
sorte que les tribunes soient pleines.
Sur les Jeux paralympiques.
Merci beaucoup.
Bon, parlons quand même un peu de sport, de médailles. La France était 8e, 33 médailles aux Jeux de Tokyo en 2021. On espère évidemment faire mieux à la maison. Cette semaine, Emmanuel Macron a parlé de 40 à 50 médailles. Est-ce que c'est suffisamment ambitieux ?
Il a surtout parlé de top 5.
Oui, mais il a dit 40 à
top
50
5,
médailles, madame
on l'a
ministre.
Fait, non, mais top 5, on l'a fait une fois dans notre histoire.
C'est divisé par deux par rapport à l'objectif qui était de 80.
Non. Non, parce que, attention, le top 5, ça se base sur un nombre de titres. Le président de la République, il a la gagne. Il veut des médailles d'or, il veut des titres. Le volume global de médailles, ça, au fond, pas tant d'intérêt que ça. C'est important parce que ça représente c'est pour chacun quelque chose d'extrêmement important. À chaque fois qu'on voit un Français sur un podium, on est profondément heureux. Mais notre objectif de top 5, il correspond à un nombre de titres. Ce top 5, on l'a déjà atteint une fois dans notre histoire, à Atlanta, en 96. Donc,
avec notamment Jean Galfionne au saut à la perche.
C'est difficile d'atteindre ça. Pour l'instant, toutes les anticipations, que ce soit les analyses qui sont faites par l'Agence nationale du sport, qui fait un travail remarquable autour de tout ça, ou des organismes indépendants, je pense aux anglo-saxons qu'on peut pas suspecter de complaisance vis-à-vis des Français. Grace Knott nous voit dans le top 3 aujourd'hui. Nous, on
parce
regarde tout ça avec
de
beaucoup
l'avantage
d'humilité.
À la maison qui a joué pour eux quand ils étaient à Londres.
Exactement. Et quand on analyse justement cette avantage de jouer à la maison, on voit que ça donne une sorte de coefficient multiplicateur de médailles au global, de aller 1,5 à 2,3 selon les éditions.
Et bah alors, on n'a qu'à dire 80.
Donc,
alors.
On s'est dit à Tokyo 10 médailles d'or. Là, on veut les multiplier, aller par 1,6, 7, 8.
Des jeux,
et c'est ça qui est important. On est dans une super dynamique. Moi, je veux rendre hommage à nos athlètes parce qu'il y a une dynamique dans le sport français aujourd'hui qui est extrêmement encourageante. Ils font un travail depuis des années pour se préparer et réjouissons-nous qu'il y ait cette belle dynamique.
Est-ce que la réussite des Jeux pour les Français passera forcément par un carton sportif ?
On sait que c'est un ingrédient de la fête, bien entendu. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Il faut, pour qu'on réussisse des grands Jeux, il faut qu'on ait quatre choses. Il faut qu'on ait une organisation qui soit aussi irréprochable que possible. Il faut qu'on ait un engagement de tous les territoires, que les Français, et on y travaille d'arrache-pied, sentent que c'est leur jeu, tous, à travers tous les territoires. Et il faut qu'on ait un héritage qui soit bien pensé, bien préparé, à la fois sur le plan de l'accueil sportif au lendemain des Jeux, mais aussi sur toutes les transformations durables, la baignabilité de la Seine et de la Marne, la faculté à transformer le village des athlètes, le village des médias, en des logements sociaux, des écoquartiers, des commerces, des services, etc. Et il y a une quatrième dimension qui est évidemment la réussite de nos athlètes. On l'a vu pendant la Coupe du Monde, c'était difficile quand on a perdu... Voilà, en quart.
Mais là, quand on vous écoute, on se dit tout est formidable, tout est sur les rails, ça va être formidable.
On est à J-100, il reste 500, 600, 700, 800 boulons à serrer. Je le dis, il reste beaucoup de travail. Il n'y a pas de jour de repos. C'est 100 jours qui sont absolument intenses en énergie. Mais on est tous en équipe dans nos temps de passage et déterminés à livrer au pays les plus grands jeux de l'histoire.
Peut-être voilà, juste un dernier mot sur le football, Nathalie.
Oui, Kylian Mbappé, on a dit qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain. Potentiellement, il va signer au Real Madrid. On sait que c'est difficile pour Thierry Henry d'avoir des joueurs et de libérer. Le président de la Fédération française fait un travail au corps auprès des présidents de club pour qu'ils relâchent. Vous avez un message à passer, vous aussi, au président de club. Laissez-les venir jouer les jeux.
Tous, on y travaille, tous on le souhaite. Le président de la République a aussi dit sa détermination sur le sujet. Moi, j'ai adoré ce qu'a dit Thierry Henry. Thierry Henry nous a dit, voilà, vous savez, c'est comme des enfants face à un rêve. Il faut parfois les laisser réclamer 10 fois et puis à la 11e, on accepte. Alors on tentera.
C'est une drôle d'éducation parentale.
Merci beaucoup Amélie Oudéa-Castère, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, d'avoir été sur France Info à l'occasion de ces 100 jours avant la cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup Nathalie.
Merci, c'était un plaisir Jean-Marie.